carcéral, donc bien sûr pour les gens de l'intérieur, mais tout aussi pour les gens de l'extérieur, parce que la prison fait partie d'un quotidien de répression qu'on vit tous les jours, et en tout cas c'est le discours qu'on tiendra ici. Voilà, et on va peut-être commencer.
Peut-être un salut tout particulier aux prisonniers des Baumettes, des prisonniers de Luynes, de la centrale de Arles, de la maison d'arrêt de Tarascon et de celle de Salon de Provence. Et le PM aussi de Marseille. Quoi.
Et les centres de rétention.
Et les centres de rétention.
Et voilà, et donc pour commencer comme d'habitude, on va commencer sur le petit agenda de la semaine et les rendez-vous qui sont donnés pour en tout cas la semaine ou les deux semaines à venir. Et en ce qui concerne le rendez-vous du lundi, on ne le présente plus, hein, c'est tous les lundis, on sait, à partir de 18h. 18h, à Mille Babord, donc les rendez-vous de l'Assemblée contre la précarisation qui permettent de mettre en place des luttes et des résistances collectives quant aux pressions et de l'acharnement administratif et quotidien. Voilà, donc chômeurs, cafeux ou juste des gens pas d'accord. Voilà, tous les lundis, mais on répète plus, ça fait quelques années maintenant qu'on appelle à ça. Voilà, et le prochain rendez-vous de la semaine, eh ben, c'est le mercredi de novembre. Donc on en a déjà parlé par rapport à tout ce qui se passe à Marseille, notamment par rapport à Euromed 2, non pas le retour, mais la continuité. Et Euromed 2, donc ça se passe plutôt du côté des puces, du quartier Les Crottes. On ne présente plus. Et donc voilà, à l'appel, ça se passe tous les mercredis, c'est au 36 rue de Lyon, de 18h à 20h. C'est appelé par le collectif On se laisse pas faire et le CIQ des Crottes, donc voilà, pour tenter de, pareil, de mettre en place des résistances collectives par rapport à ce qui se passe dans le centre-ville de Marseille et donc maintenant un peu à la périphérie du centre-ville. Voilà, donc c'est tous les mercredis, on invite le plus de monde, de gens à y aller, et voilà, c'est pour choper de l'info, pour s'organiser, pour voilà, en tout cas se rencontrer quoi. Voilà, et sinon, l'autre rendez-vous que nous avons à vous annoncer ce soir, c'est le... pas cette semaine, ça se passe le 12 novembre, c'est un samedi je crois bien, c'est ça, samedi, c'est un samedi le 12 novembre, et donc c'est un concert de soutien à l'anarchiste Black Cross. Alors l'anarchiste Black Cross, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un collectif de soutien aux prisonniers. Alors à la base, historiquement, aux prisonniers politiques, anarchistes ou communistes, mais en lutte. Voilà. Et aujourd'hui, bon, c'est une caisse de soutien qui s'organise par rapport à tous les gens qui se font incarcérer dans le monde entier. À des moments, il y a des luttes assez fortes contre les États. Donc ils sont sous le couvert de... ce qu'ils auraient pu appeler les prisonniers politiques, ce qui n'est pas le cas de... On ne pense pas tous de la même manière ici, en tout cas, par rapport à la distinction prisonnier politique, prisonnier droit commun. Mais voilà, et donc c'est très bien, allez-y quand même, c'est le 12 novembre, et ça se passe à Entropie. Entropie, c'est toujours pareil, ça n'a pas changé de place, c'est toujours au 1 rue Consola, et ça commencera à 19h avec des apéros et projections, et à partir de 21h, un concert avec trois groupes. Et bien sûr, et bien entendu, ça sera prix libre. Voilà, et bah peut-être qu'avant de commencer, on va se mettre une petite musique, hein, tranquille, non? À moins que vous ayez d'autres... parce que je suis pas tout seul, en fait. J'ai l'air comme ça, mais je suis pas tout seul. Et voilà, sinon, après on passera au sujet, mais on va envoyer une petite musique. Pour se détendre. Un petit peu.
Allez, musique.
Hein? Musique. Hein?
I know you
ND Chaîne 88.4.
Ouais, et donc ben on va commencer un peu sur le thème donc de l'émission, disait l'anticarcéral qu'on essaye de mettre en place depuis plusieurs mois maintenant, et on va commencer par une lecture donc en montage de Kaoutar, donc Kaoutar dont on vous a beaucoup parlé, qui est une prisonnière qui est souvent en lutte contre l'administration pénitentiaire, qui avait eu à subir donc d'énormes répressions, dont notamment une incarcération forcée à l'unité pour malades difficiles, donc en soins psychiatriques obligatoires et compagnie. Finalement, bon, elle était sortie, elle était donc au début à Versailles, après je sais plus, elle était à Fleury, où elle était donc avec une autre camarade à elle, Soussou, dont on vous lira souvent des lettres aussi, parce que c'est des gens qui se bougent beaucoup à l'intérieur. Finalement, elle a fini par être transférée à Rennes, qui était sa demande au début. On est dans une maison pour des longues peines. Et voilà. Et donc, non, elle n'est pas hyper contente. De toute façon, voilà. Et du coup, elle a écrit une lettre. Et comme on fait un lien avec les émissions qui sont passées avant et ce qu'elle nous envoie, en tout cas, comme message, voilà. Donc, on va vous faire suivre une petite lecture de sa dernière lettre qui est parue dans l'Envolé, dont on vous reparlera après.
De détention de Rennes, le 22 avril 2011. Salut à toute l'équipe. Il est 2h25 du matin. Impossible de dormir. Plein de choses me sont passées par la tête. Pour éviter que ma tête n'explose, et puisque cela fait super longtemps que je n'ai pas écrit, je me suis dit qu'il était temps de le faire. Cela fait 5 mois que je suis au centre de détention de Rennes. J'ai l'impression que cela fait le double, tellement il n'y a rien à faire ici. C'est un véritable cimetière vivant, un mouroir où les détenus s'enterrent de jour en jour. J'en viens à regretter les mouvements de maison d'arrêt où, malgré l'enfermement qui nous pesait, régnait tout de même une atmosphère plus pimentée. Ici, il ne se passe jamais rien, aucune manifestation de désaccord avec l'administration pénitentiaire, même quand celle-ci utilise les moyens qu'on connaît tous pour nous pourrir notre détention. Dernière trouvaille. Nous obliger à placer notre télévision au bout de la pièce, tout en haut sur une tablette. Résultat, tout le monde se plaint, mais personne ne fait rien. Et pourtant, notre vue en prend un sérieux coup. Et bonjour les torticolis.
Nous sommes comme des pions sur un échiquier, à la merci de ces pantins, ces soi-disant juges, incapables d'appliquer au moment venu nos droits, encore moins nos peines. Tant qu'on est à l'intérieur, pas de remède. Pas d'autre choix que d'attendre et attendre, toujours attendre. En attendant, on perd vite espoir. Plus envie de rien, faire du sport pour évacuer et se défouler. Je cours, je marche, je lève des poids, je fais des pompes, des abdos. Quelquefois, quand je suis sur le tapis roulant de sport, je regarde les kilomètres défiler de jour en jour et je me dis à quelle distance je serais arrivé à l'extérieur. À ce rythme, j'aurais pu traverser des villes de France. Et non, je tourne en rond en promenade ou pire, du surplace dans une salle de sport entourée par des murs et des barbelés dans une tôle. Tout ce que j'espérais en arrivant ici à Rennes, c'était de bénéficier de mes permissions à un tiers de peine. Juste une permission, pour pouvoir voir ma famille à l'extérieur, et loin de ces murs de merde, loin de cette tôle, loin de ce trou à rats. Est-ce trop demandé ? À quoi ça sert tout ça ? Je me le demande. À part nous faire péter un plomb, nous exploiter en nous payant une misère par jour, sans oublier le ratio pour la partie civile. Franchement, c'est plus fort que moi, j'y arrive pas. À rentrer dans le moule du tôlard qui est sur sa machine à coudre dès 7h30 du matin jusqu'à 12h pour gagner 3 euros de l'heure. J'ai essayé, impossible. Déjà qu'avec la détention, ma vue en a pris un coup, mais là alors, avec la couture, ça n'arrange rien. J'espère qu'on me proposera autre chose de plus intéressant. En attendant, je préfère garder mon énergie pour le sport.
Sinon, comme je vous l'ai dit, l'ambiance n'est pas terrible ici. Aucune contestation, aucune once de révolte, jamais de refus de plateau, encore moins de blocage. C'est le bon plan ici, si les matons veulent bosser tranquille. Moins de stress et de courses pour eux. C'est ennuyeux. Les détenus disent amen à tout. Un quelconque compte-rendu d'incident ferait tâche dans leur dossier et serait critique pour leur sortie. Les trois quarts des détenus ne sortent jamais en promenade, ne font jamais de sport. À croire que leur détention tourne autour de leur travail. J'ai du mal à comprendre cette mentalité, je l'avoue. Même dans mes pires moments, où je n'ai pas le moral, j'ai toujours besoin de prendre l'air, de respirer. Ce n'est pas possible de rester une journée sans sortir. Il est vrai qu'en promenade, on ne rencontre pas forcément des personnes qui nous ressemblent, mais bon, c'est important d'échanger nos points de vue et d'apprendre sur l'autre, même si on est différent. Voilà, il est 4h28 du matin, je n'ai pas sommeil, je pense que je vais voir l'aube se lever. Je souhaite à tous les prisonniers et prisonnières de sortir un jour de ces geôles. Que tous ces murs de béton soient un jour ou l'autre tous abattus comme des châteaux de cartes. Ce serait mon rêve le plus cher. Un peu fictif, mais qui sait, l'espoir fait vivre, n'est-ce pas? Je vous embrasse tous très fort. Force, courage, détermination et patience. Kaouta.
Il nous tourmente,
il nous tue,
il nous mente, il nous abatte, il nous insulte, il nous mente, il nous tourmente,
il vole nos têtes,
il nous tue, dans la rue,
il nous abatte,
il nous mente, il vole nos têtes. Veulent nos têtes.
Je lutte mon frère parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure c'est vrai. Je lutte mon frère parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure c'est vrai.
Je lutte parce qu'on me rejette. Mais sur ma route, enquête puis écoute. Et qu'on y ajoute des coups de tête et puis des coups de latte. Donc mat tous ces coups de pute en fait que l'on goûte. Et nos défaites ici sont à la fête. Parfaites en somme pour inspirer la crainte. Donc rien n'arrête les batailles que je décrète. Même si les flammes des émeutes sont éteintes. Moi, ce prototype que l'on tape. L'archétype de la sale gueule dont on flippe. Et qui ne franchit jamais aucune étape. Sans qu'on me palpe du scalp jusqu'au slip. J'écope de la perpète. Entre les parfums où mon histoire se répète. Tu sais la répression ici est comme un pit. Brut et en rut, elle ne te rate pas, il se précipite.
Je lutte mon frère parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure c'est vrai. Je lutte mon frère parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure c'est vrai.
Sur moi, ils lâchent la meute. Ils veulent mater les pommades et promettent de passer fer, barre et puis gourmette. À ceux qui se révoltent et ceux qui comptent s'y mettre. Et ce n'est pas un mythe, sache qu'on nous pousse dans nos limites. Et quand on monte, tout comme le Vélodimat, une toute petite allumette peut de suite chauffer une tête qui dans la minute éclate. Tout ça alimente nos tourmentes, ils nous mentent, nous dégoûtent. Nous tentent à la vie délinquante et nous déroutent. Et si on dérape, ils nous agrippent. Déploient leur force de frappe et nous font sauter les tripes. Je sais ça t'échappe, mon monde et mes sapes. Mes ondes, mon équipe et mon handicap. Mes principes, mes mauvais tripes et puis mon rap. Donc ce que je récite, je suis pas sûr que tu le captes. J'adopte la vengeance comme seul but. Et la tolérance n'est pas trop dans mon concept. On nous souille, nous dépouille et nous insulte. Donc nous ne sommes pas de ces têtes que l'on accepte. Pour ça j'évite leur droit de vote. La prime au mérite a fait monter ma cote. J'ai tout leur keuf et ils s'en félicitent. Et dans l'air une odeur de bavure qui m'irrite. Alors que m'écoutent les élites délicates. Et que constatent les putes de politique. Si certains frères hésitent et puis comatent. Je me répète, vous et moi ne sommes pas qui.
Je lutte mon frère parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure c'est vrai. Je lutte mon frère parce qu'on me rejette. L'élite veut ma tête, je te jure c'est vrai.
C'est ma teinte qui les éreinte et puis oriente. Leurs assauts et nos décès dans leur descente. Et s'ils s'excitent, nos têtes sautent, s'ils s'emportent, justice clémente, et de suite ils s'en sortent. Nos vies défuntes ou en miettes, ils s'en foutent, c'est sur nos appartements qu'ils empiètent. Nous mettent dans la lunette des chiottes, tirent la chasse, et alors emmènent leurs chiasses et la flotte. Donc j'en prends note et n'ai aucune attente. La fuite ou la faim te laisse trop dans la fiente. Ils guettent, battent, ligotent, mènent à la baguette et mijotent, qui n'est pas leur pote, te souhaite la chute ou le shoot. Une existence méchante et puis faite de doute, peu alléchante, donc frère écoute. J'ai choisi de combattre putes et traites et leur porte de les abattre toutes. Je lutte mon frère parce qu'on me rejette, l'élite veut ma tête, je te jure c'est vrai. Je lutte mon frère parce qu'on me rejette, l'élite veut ma tête, je te jure c'est vrai. Je lutte mon frère parce qu'on me rejette, l'élite veut ma tête, je te jure c'est vrai. Je lutte mon frère parce qu'on me rejette, l'élite veut ma tête, je te jure c'est vrai.
C'était donc Kazé.
Je lutte.
Kazé. Et voilà, et donc pour continuer sur les petites actus, parce que, bon, c'est toujours pas trop facile de se parler de ce qui se passe à l'intérieur, ça peut prendre ça avec l'autre, mais il y a quand même beaucoup de luttes qui se passent, il y a des révoltes de prisonniers, et notamment beaucoup de, enfin beaucoup par rapport à ce qu'on entend parler, en tout cas de révoltes collectives. Et donc on vous en parle à chaque fois, et notamment la dernière fois, vous avez parlé d'une révolte qui avait lieu à Oni, à prison d'Oni, en région parisienne. Et donc il y a eu le rendu du procès. Alors pour revenir légèrement sur les faits, ça s'est passé en février dernier, et il y a eu, on a appris donc au début par l'intermédiaire d'un petit filet dans un journal local qu'on n'aime pas spécialement, qu'une émeute avait eu lieu dans la prison du Val d'Oise à Oni-sous-Bois, voilà. Et donc plusieurs centaines de prisonniers qui avaient refusé de monter en promenade, qui avaient un peu saccagé le décor, donc les grillages, et pas mal d'heures de résistance par rapport face aux ERIS. Donc les ERIS, on répète encore, hein, c'est les CRS spécial maton, spécial prison cagoulé et anonyme, qui rentrent dans les tôles à un moment où il y a des révoltes pour faire leur boulot de nettoyage physique. Voilà. Et donc il y a eu ce procès. Alors ce procès, bon, voilà, c'était un peu tout vu d'avance. Il y a eu une ambiance assez hallucinante, du fait que, alors déjà, c'était jugé par un juge qui a la comment on appelle ça, la renommée de se faire appeler le boucher, donc qui veut un peu tout dire, qui a tendance à avoir un peu la main lourde, voilà, un mec, le boucher. Et surtout, ce qui a marqué les gens qui sont allés en tant que témoins, c'était donc déjà énormément de policiers dans la salle, donc très peu de place pour les proches ou les familles ou les gens qui étaient plutôt voulaient savoir ce qui s'était réellement passé. Et voilà. Alors suite à cette révolte, voilà, il y a 5 prisonniers qui ont été pris. Alors apparemment, on voit bien un peu au hasard, ils en ont pioché 5, et donc ces 5 étaient jugés quelques mois après, quoi. Donc dans cette ambiance, avec, alors, apparemment une vulgarité, un mépris assez rare pour les tolards. Alors je vais citer juste une phrase du président qui leur dit, président, s'il vous plaît, qui leur dit: à votre place, je ne rigolerai pas trop parce que l'addition va être très très salée. Voilà. Donc c'était un peu jugé d'avance. Alors il y a le directeur de la maison d'arrêt qui a débarqué, qui a limite tapé la bise au juge, genre bon, on se connaît bien, voilà, c'était tout vu d'avance, on savait qu'ils allaient prendre très cher. Bien sûr, à aucun moment du procès, ils ont parlé de la situation carcérale en elle-même, qui amène à donc toutes ces révoltes dans les tôles. Et ils ont surtout parlé des pauvres conditions, non pas de détention, mais de travail, des pauvres matons quand même, qui ont en face d'eux des hordes de sauvages prêts à les étrangler, quoi. Voilà, alors c'était parti d'une histoire de ballon, bref, peu importe l'histoire. Voilà, alors il y a eu aussi beaucoup de PV qui ne correspondaient pas entre les PV déclarés à la suite de l'émeute et ceux qui ont été faits pendant les auditions d'après. Alors évidemment, il y a une matone qui dit à un moment: ah, ça c'est les collègues qui m'avaient dit de le rajouter. Voilà, elle veut tout dire. Et on s'attendait donc à une énorme des peines qui pouvaient être très très lourdes, pour montrer l'exemple qu'on se révolte pas dans les prisons et que le premier qui se révolteront, eh ben ils vont manger. Alors, ils ont quand même mangé. Il y en a un qui a été acquitté, mais ils ont tous pris de la prison ferme, donc 6 à 1 an, donc de plus. Et alors voilà, pour la petite histoire, sachant que le plus jeune, lui, devait sortir une semaine après l'histoire, mais qui s'est pris plusieurs mois de placard en plus, ça lui a niqué un peu ses projets. Voilà, donc c'était pour faire un peu le suivi de ce qui s'est passé. Pareil, il y a eu des révoltes, on en a parlé à Corbas. Alors à Corbas, il y en a eu à Angers, il y en a eu au Mans. On essaiera régulièrement de faire les liens ici, parce qu'on sait que ça passe à l'intérieur et que le but qu'on a, en tout cas nous, c'est de passer les infos de ce qui se passe dans les tôles au niveau des résistants, donc individuels ou collectifs. Voilà, c'est le peu qu'on peut faire, mais c'est au moins ça.
D'ailleurs, on pourrait peut-être rappeler l'adresse de l'émission, quoi, s'il y a des gens qui veulent nous écrire. En
fait. Ouais, s'il y a des gens qui veulent nous écrire, bah, suffit d'écrire donc à Radio Galère, N des chaînes, c'est le nom de l'émission, hein, N des chaînes, et c'est au 41 rue Jobin, Jobin, J-O-B-I-N, Jobin, dans le 3e arrondissement à Marseille. Et voilà, donc surtout pas hésiter, voilà, même à téléphoner aussi, hein, quand il y a des familles qui veulent appeler. Je te redonne le numéro, c'est 04 91 08 28 10 ou 28 15. Et voilà, et plus largement, justement, pour revenir sur ce lien entre l'intérieur et l'extérieur, la plupart des textes dont on vous parle ce soir ou avec lesquels on a fait des montages, c'est des textes qui sont issus du journal L'Envolée, le journal L'Envolée, donc pareil, hein, parler, et on en reparlera encore beaucoup de fois, qui est le gros journal qui existe depuis plusieurs années, qui est aussi une émission de radio à Paris. Donc sur Radio FPP, et qui permet aux prisonniers de transmettre un peu à l'extérieur et ou même de communiquer entre eux sur ce qui se passe, sur leurs conditions de détention, sur les luttes à l'intérieur. Ça permet de faire passer un peu le message hors des médias. Voilà, un petit lien, hein, aussi. Voilà, si peut-être pas très, pas énorme, mais c'est déjà beaucoup. Et un lien pour savoir là qu'est-ce qui se passe d'une tôle à l'autre. Et voilà, et donc c'est aussi un journal dont on est proche parce qu'il s'inscrit dans la prison, une critique de la prison, mais vu comme une critique aussi de la société carcérale dans laquelle on vit. Voilà, donc qui est abolitionniste de la prison sans penser, qui pense l'abolition de la prison sans la penser, sans l'abolition du système économique dans lequel on vit, qu'est le capitalisme et sa démocratie qui l'accompagne, quoi. Voilà, et donc le journal L'Envolée, bah vous pouvez, c'est gratuit pour les familles de détenus et pour les prisonniers. Alors il passe dans des prisons, dans d'autres il passe pas, mais ça vaut toujours le coup, c'est de demander un abonnement, c'est possible. Et pour leur écrire, eux, c'est sous simple, si c'est au 43 rue de Stalingrad. 43 rue de Stalingrad, donc le journal L'Envolée, 93 100 à Montreuil. Bon, voilà, sinon ils ont un site internet, bon, bref, on peut trouver les.
Mais pour l'envoyer à des détenus, en fait, il suffit d'écrire sur papier libre le nom du détenu, son numéro d'écrou, la prison dans laquelle il est incarcéré, puis de demander la durée d'abonnement pour ce détenu. Et en espérant que ça passe dans la prison dans laquelle il est incarcéré.
Pour la région, en tout cas, on sait qu'il passe à Luynes, parce qu'il passe à Luynes, en tout cas jusqu'à dernière nouvelle, il passait à Luynes. Pour les autres maisons d'arrêt et sans détention et la centrale d'Arles, on ne sait pas trop. Mais bah voilà. Donc je vous rappelle l'adresse, 43 rue de Stalingrad. 93 100, Montreuil, le journal L'Envolée, voilà. Et donc ça c'était pour les luttes, et bon bah voilà, tenir l'oreille un peu alerte par rapport à ce qui se passe. Et puis voilà quoi.
Voilà, et on voulait aussi vous parler d'une petite nouveauté qui a été adoptée cet été. Ça, c'est les tribunaux citoyens. Alors en fait, ça fait que maintenant il va y avoir des citoyens qui vont participer au fonctionnement de la justice pénale et de la justice des mineurs. Donc ça sera plus, il n'y aura plus simplement que des jurés dans les assises, mais aussi des citoyens pour ce qui concerne le correctionnel. Donc ça, c'est prévu pour 2014. Et donc ils l'ont déjà expérimenté dans les cours d'appel de Dijon et de Toulouse. Bref. Donc en fait, ces citoyens, ils vont être tirés au sort dans les listes de jurés. Donc c'est les mêmes listes qui étaient destinées aux assises.
Vous inscrivez pas sur les listes électorales, quoi.
Surtout pas, parce que sinon. Oui, en plus, pour ceux qui veulent se soustraire à ça sans vraiment de motif, donc à part peut-être apparemment un certificat médical, ça peut suffire, mais bon, à vérifier. Et en gros, on peut te retrouver avec une amende de 3750 euros, juste pour refus sans motif. Donc en gros, ils se retrouvent enrôlés de force dans...
Alors, position de juge,
ouais, voilà.
Assermenté.
C'est 8 jours par an.
Obligatoire.
Obligatoire. Donc ils auront le droit quand même à une petite formation accélérée sur le fonctionnement de la justice pénale, quand même, histoire de savoir un petit peu dans quel bain ils arrivent.
De les formater pour leur dire
voilà, c'est
pour
ça qu'ils
jugent bien.
Dire, voilà. donc dès 2012, ils vont intégrer certains tribunaux correctionnels, des chambres d'appel et des tribunaux d'application des peines. Ils pourront poser des questions aux prévenus, à la partie civile, aux témoins, aux experts. Mais par contre, ils ne pourront pas manifester leur opinion. Donc ouais, en fait, c'est ça. On va leur dire ce qu'ils ont à faire. Ils vont être là pour faire un peu...
Ils vont faire un décor un peu.
C'est ça.
Décor, ouais.
Figuration.
Ah, la démocratie.
Ouh. Donc ces tribunaux citoyens, en fait, ils seront compétents. C'est pour les délits passibles d'une peine de 5 à 10 ans de prison. Donc à l'exception des délits qui concernent la récidive, puisque là, c'est de façon doublée systématiquement. Ça va concerner les vols avec violence, les extorsions, les atteintes à la personne humaine, les agressions sexuelles, les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes. Par contre, en ce qui concerne la délinquance organisée, financière, fiscale, environnementale, la corruption et les délits d'initiés, ça continuera à être jugé en correctionnel. En gros, ce sera une correctionnelle populaire pour la plèbe, enfin les pauvres, hein, et une autre professionnelle pour les puissants. Donc, ce sera toujours plus ou moins les mêmes qui trinquent.
Ouais. Alors bien sûr, au début, il y a des magistrats qui ont grogné en disant « Ah, quand même, on va pas nous piquer notre rôle ». Mais bon, ils se sont assez bien débrouillés, et parce que fatalement, ils auront beaucoup plus de poids et de pratique, donc de la manipulation aussi pour faire voter dans le sens qu'ils veulent, hein, c'est un peu ce truc-là. Et en même temps, alors, ce qui est dit dans cet article, et qui est pas faux, c'est qu'on peut pas vraiment le regretter non plus, vu les 30 ans de battage médiatique qu'il y a et de populisme qui est fait par rapport au jugement. Et ce qui est notamment super grave là-dedans, c'est que ça continue cette même logique dont on parlait de société carcérale tout à l'heure, où alors il y a l'arrivée des balances qui sont rémunérées, et de faire de tous les citoyens donc son propre flic déjà, et voilà,
dénoncer ses copains,
et voilà, et du coup bah c'est toujours aller dans ce truc que moi je vois bien, hein, démocratique, hein, je pense qu'ici tout le monde sera d'accord avec moi, de oui, regardez, la justice nous appartient à tous, nous sommes un peuple libre, et voilà, et donc ça donnera une beaucoup plus de légitimité aux peines qui tomberont, et peu importe la peine, de toute façon ça sera toujours de l'enfermement et de la vengeance, et de la vengeance d'État partagée entre les bons citoyens d'un côté et bien sûr les méchants délinquants. Et surtout, alors l'article finit par cette phrase qui est pas mal, quoi.
Ouais.
À qui pourront-ils s'en prendre quand ils seront condamnés au nom du peuple et par le peuple ?
Bien pratique.
Voilà. Donc c'était pour faire l'actu de la petite justice, de comment elle se déroule et comment elle se met en place, comment elle se transforme, elle se restructure tous les jours. Comment elle se met en scène. Voilà, pour justifier donc des peines de plus en plus longues et de plus en plus de peines. Et on va peut-être faire une petite pause musicale. Pour après arriver justement au thème de la soirée, qui est la peine de mort en prison, qui apparemment elle aurait disparu depuis 30 ans. Voilà. Musique. Quand l'oreille qui bouge a du mal à réfléchir, il n'a qu'à envoyer la piste 2.
Chaîne 88.4, on ouais. Parlait donc de la peine de mort.
Voilà, parce que la peine de mort, souvenez-vous, 1981, la France, pays des droits de l'homme,
abolit
la peine de mort. Alors depuis, surtout à l'époque, bah, c'était pas rien, surtout pour l'image, imaginez, la France ne les tue plus.
Surtout l'image.
Voilà, mais qu'est-ce que c'est que ça, que, à part considérer encore une fois la situation plutôt que du, l'unique point de vue de l'État ? Comme si l'État n'assassinait plus et comme si la mort avait disparu des murs. Alors on va voir dans plusieurs montages que, en fait, alors là on peut commencer à surtout dire que bah, la mort elle n'a pas disparu. On vous le rappelle, cette information très gaie, qu'il y a surtout 10 fois plus de suicides à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui n'est pas rien, ce qui ne veut pas surtout rien dire, quoi. Et c'est sans compter les morts suspectes. Et d'ailleurs on vous passera à la fin de l'émission un montage qui a été fait en région parisienne par rapport à une mort suspecte. Vous savez, des gens qui se suicident avec des bleus partout sur le corps. Ce qui se passe là. Et c'est aussi oublier ben, cette mort qui n'existerait pas, qui est niée tous les jours, cette mort lente dans l'oubli, l'oubli, l'asphyxie du quotidien carcéral, et cette espèce de mort sociale ou civile, en tout cas ce qui reste quand même une part de vie sociale en prison malgré tout, quoi. Et voilà, et alors cette logique, bien sûr, elle n'est pas prête de s'arrêter, parce que quand on vous rappelle qu'il y a 30 000 places supplémentaires qui sont. Qui vont être créés d'ici 2007, ça fait peur. 2007, voilà. 2017, pardon, 2007 c'est passé, bon c'est pareil, hein. 2017 quoi. Ça va aller assez vite, 30 000 places supplémentaires, ça fait 90 000 places, sachant qu'aujourd'hui il y en a 65 000 détenus incarcérés, c'est sans compter les peines alternatives, les
donc
bracelets, les semis, et 90 000, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça se rapproche très très vite de beaucoup de monde. Et voilà.
Bah, c'est tous les détenus qui sont pas encore, enfin les gens qui ont été écroués et qui sont toujours pas emprisonnés, bah, là on va leur trouver de la place.
On va leur trouver de la place, quoi. Et justement, bon, pour revenir en termes, qu'est-ce que ça a provoqué l'abolition de la peine de mort, ou qu'est-ce que ça a sous-entendu derrière ? Eh ben, ça a surtout sous-entendu une restructuration du système judiciaire avec de plus en plus de peines et des peines de plus en plus longues. Voilà, donc pour commencer, ben, on va vous passer un montage qui est vraiment assez bien et qui explique assez clairement l'impact de l'abolition, voilà, qu'est-ce que ça a créé concrètement et, par rapport au système judiciaire et quelle hypocrisie c'est aujourd'hui, quoi. Voilà, on se retrouvera à la fin du montage.
Cet automne, politiques, experts, journalistes, artistes et militants fait encore une fois la Saint-Badinter. Le gouvernement socialiste aurait aboli la peine de mort le 9 octobre 1981. En fait, les peines s'allongent et se multiplient à l'infini, et on meurt toujours plus derrière les murs, quand la peine de mort ne prend pas la forme d'une exécution sommaire par les flics. Ça ne donne pas envie de faire la fête, plutôt de faire sa fête une bonne fois pour toutes à ce système qui enferme de plus en plus et de plus en plus souvent. En 2001, des prisonniers dénonçaient déjà la supercherie de l'abolition de la peine de mort et l'obscénité de la célébration de son 20e anniversaire. Leurs paroles avaient été relayées à l'extérieur pour dévoiler ce qui se cachait derrière l'humanisme de la mesure. Une refonte méthodique et délibérée du système pénal français. Ce n'est pas une vieille star du barreau passée à la politique qui a mis un terme à l'utilisation de la guillotine par l'État français. Cette fameuse abolition n'était qu'une étape dans un processus dont le but est toujours d'éliminer. Pour protéger la société sans pour autant passer pour des tueurs, il suffisait de remplacer la peine de mort par des peines de plus en plus nombreuses, de plus en plus longues et qui, bien des fois, vont jusqu'à la mort. L'objectif est bien d'enfermer à vie. Et les droits de l'homme sont un paramètre comme un autre à intégrer dans la balance des coûts. Par exemple, en faisant semblant de mettre la sécurité des personnels et les droits des prisonniers sur le même plan. Ce qui s'est passé en 10 ans, concrètement, c'est des constructions de prisons. Le discours officiel les présente toujours comme un remède à la surpopulation carcérale et un moyen d'améliorer les conditions de détention. Évidemment, il n'en est rien. On voit bien que les nouvelles prisons seront bientôt aussi bourrées que les anciennes, puisque les juges continuent à condamner toujours plus. Et lorsque l'horizon européen de l'encellulement individuel dans les prisons high-tech est ponctuellement atteint ici ou là, les témoignages ne manquent pas pour montrer que c'est le début d'un autre enfer, celui de la privation sensorielle et de la rupture de tout lien social. Ce qui s'est passé en 10 ans, c'est aussi une avalanche de lois pour remplir ces prisons. La création de nouveaux délits induit directement l'allongement des peines. Tout est revu à la hausse. Un juge qui colle une amende pour avoir fumé une cigarette ou téléphoné au volant n'aura aucun mal à condamner à 3 ans de prison pour vol simple et à des peines éliminatrices de 30 ans pour échange de coups de feu avec la police. Plus les peines prononcées se multiplient, plus elles s'allongent. L'allongement d'une peine particulière a un effet sur la pénalisation de toutes les infractions. Loin d'offrir un échappatoire, les peines de substitution sont là pour enfermer toujours plus et par tous les moyens. Les travaux d'intérêt général ne font sortir personne de prison, puisqu'ils remplacent de simples amendes. Le bracelet électronique permet de condamner à la prison hors les murs des personnes qui auraient pris du sursis, ou pire, de soumettre des condamnés à un suivi socio-judiciaire strict pour les contraindre au travail et d'étendre la peine au-delà de la durée d'emprisonnement prononcée. De la lutte contre la violence routière à la pénalisation de l'évasion, le système pénal se donne les moyens de punir toujours plus. Les juges se plaignent de l'encombrement des tribunaux, mais ils n'ont jamais joui d'un tel pouvoir de nuisance. Le fait de condamner quelqu'un à 20 ans d'enfermement ne choque quasiment plus personne. Le temps économique a tout avalé. 20 ans, le temps d'un crédit immobilier. Cette comptabilité insensée reflète les rapports mortifères qui ont cours dans la société à cause de l'argent. Tout a un prix et tout le monde est à vendre. Suivant cette arithmétique universelle, selon le tarif, on paie de son temps, c'est-à-dire de sa vie. Des vies entières, à crédit ou en prison, selon le chemin emprunté. Une voiture vaut 50 crédits ou 3 ans de prison. Quelques milliers d'euros valent une vie de travail ou 30 ans de prison. Les macabres tables de calcul de la loi et de l'économie font défiler leurs colonnes de chiffres jusqu'à l'épuisement. Rien n'est oublié. L'économie et le droit ont horreur du vide. On peut sans rougir préférer sa voiture à la vie d'un homme. En fait, ce sont des vies entières qui sont arrachées aux enfermés et à leurs proches. Seuls à même de témoigner de ravages qui ne se mesurent pas, de mutilations qui le plus souvent se taisent, parfois se chuchotent quand elles ne se crient pas dans un dernier acte désespéré. S'il est rare que des écrits ou des révoltes de l'intérieur s'en prennent aux peines elles-mêmes, c'est peut-être qu'il est difficile voire dangereux pour un prisonnier de se pencher sur l'absurdité de sa peine. Il risque de plonger rapidement dans une logique du rien à perdre, de la vie ou de la mort. Un mois, une année, une décennie, perpétuité. Chaque prisonnier tente d'effacer le trop-plein de ce temps vide, de tuer le temps, mais c'est le temps qui le tue.
Avec le montage qui suit, justement par rapport à l'abolition de la peine de mort, c'est qu'il y a quelques années, en 2006...
Il y a les prisonniers qui ont fait un appel.
À la maison, à la centrale de Clairvaux.
À la centrale de Clairvaux, ouais. En gros, ce qu'ils demandent, c'est le rétablissement de la peine de mort, puisque finalement, les garder ad vitam aeternam en prison, eux, leur truc, ce serait plutôt, tuez-nous tout de suite, nous on en a marre.
Arrêtez
de nous tuer à petit feu et de nous dire, c'est bien, il n'y a plus la peine de mort, mais nous
mais
on crève.
Quand même en prison.
Mais de mort lente.
C'est ça, de mort lente et douloureuse.
De mort lente et douloureuse. Donc,
et organisée.
Et organisée, ouais. Surtout organisée. Du coup, on vous passe ce petit message, cette lettre qui a été écrite donc, en 2006. Avec tout le monde n'est pas toujours d'accord avec cette initiative, en tout cas. Mais on le passe parce que c'est quand même pas rien que d'entendre des gens qui demandent la peine de mort et la guillotine effective, quoi. Voilà, juste pour casser un peu cette hypocrisie qui se passe depuis 30 ans maintenant. En France et bien ailleurs, en fait.
Ça montre pas mal aussi la douleur, de ce que c'est de croupir toute sa vie jusqu'à mourir.
Ouais. Allez.
À ceux de l'extérieur osant affirmer que la peine de mort est abolie, silence. On achève bien les chevaux. Nous, les emmurés vivant à perpétuité du centre pénitentiaire le plus sécuritaire de France, dont aucun de nous ne vaut un papon, nous en appelons au rétablissement effectif de la peine de mort pour nous. Assez d'hypocrisie. Dès lors qu'on nous voue en réalité à une perpétuité réelle, sans aucune perspective effective de libération à l'issue de notre peine de sûreté, Nous préférons encore en finir une bonne fois pour toutes que de nous voir crever à petit feu, sans espoir d'aucun lendemain, après bien plus de 20 années de misère absolue. À l'inverse des autres pays européens, derrière les murs gris de ces prisons indignes, la République des Lumières et des Libertés de 2006 nous torture et nous anéantit tranquillement, en toute apparente légalité, au nom du peuple français, en nous assénant en fonction du climat social ou à la faveur d'un fait divers ou encore d'échéances électorales, mesure répressive sur mesure répressive, sur le fondement du dogme en vogue du tout sécuritaire, érigé en principe premier, supplantant tous les autres.
Qu'on se rassure, de nos jours ici, même les mauvaises herbes ne repoussent plus. Il n'y a que le noir et le désespoir, de surenchère en surenchère. La machine à broyer l'homme a pris impitoyablement le pas. À quoi servent les peines de sûreté qu'on nous inflige, quand une fois leur durée dûment purgée, on n'a aucun espoir de recouvrer la liberté? Depuis l'année 2000, à la loi Perben 2 de 2005, on a fait mine de s'appliquer à légiférer en instituant de nouvelles juridictions de libération conditionnelle. Seulement, comme hier le ministre de la Justice, les juges d'aujourd'hui, à l'oreille de l'administration, nous opposent, refus sur refus, nous vouant à des durées de détention à la Lucien Léger. Pourtant, sur la finalité de la peine, l'État français, admettant que nous avons vocation de sortir un jour, et s'inscrivant dans le cadre des recommandations du Conseil de l'Europe, a posé pour principe s'étendant aux longues peines et aux 700 condamnés à perpétuité que l'exécution des peines privatives de liberté a été conçue non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer sa réinsertion. En réalité, tout est au châtiment. Combien d'entre nous, du moins pour ceux qui ne sont pas décédés depuis, ont déjà purgé plusieurs années au-delà même de leur peine de sûreté de 18 ans, sans se voir présenter, à ce jour, une réelle perspective de libération. Après de telles durées de prison, tout rescapé ne peut que sortir au mieux sénile et totalement brisé. En pareil cas, qui peut vraiment se réinsérer socialement? En fait, pour toute alternative, comme avant 1981, ne nous reste-t-il pas mieux à trouver plus rapidement dans la mort notre liberté?
De surcroît, pour nous amener à nous plier à ce sort d'enterré vif, on nous a ces dernières années rajouté murs, miradors, grilles en acier et maintes autres contraintes. Le tout pour faire taire toute velléité, assortie de commandos de surveillants casqués, armés et cagoulés, à l'impunité et aux dérives vainement dénoncées ça et là dans l'indifférence générale. N'en croyez rien, il y a ici une place pour vous et pour vos fils. C'est encore plus vrai que jamais, à l'heure où l'on préfère supprimer à tour de bras dans les écoles du pays bien des postes d'instituteurs et d'éducateurs pour en lieu et place miser sur l'embauche de toujours plus de nouveaux policiers et surveillants de prison et en érigeant de nouvelles prisons et autant de quartiers hauts de sécurité. Aussi, parce qu'une société dite démocratique ne devrait pas se permettre de jouer ainsi avec la politique pénale visant à l'allongement indéfini des peines. À choisir à notre morlande programmée, nous demandons à l'État français, chantre des droits de l'homme et des libertés, de rétablir instamment pour nous tous la peine de mort effective. Clairvaux, le 16 janvier 2006.
Sous-signé les susnommés ci-après du mouroir de Clairvaux. Abdelhamid Akar, André Généra, Bernard Lasselin, Patrick Perrochon, Milivoj Milos Slavevitch, Daniel Aertz, Farid Tahir, Christian Rivière, Jean-Marie Dubois, Tadeusz Tutkaj.
Et donc la réponse de Perben à ces détenus de Clairvaux, ça a été de dire que si on ouvrait la guillotine, il n'y a pas grand monde qui se présenterait devant. Et si c'est ça qui... J'aimerais bien savoir qui se présenterait devant si on nous, enfin, si on rouvrait la guillotine, qui c'est qui se présenterait devant, quoi. Tout à fait cynique à souhait.
Qu'il y aille.
Et donc, pour enchaîner, on va parler de...
musique.
De musique. Voilà, on va mettre de la musique. Donc, musique.
In constant sorrow. Trouble on
perhaps I'll die upon this train. Perhaps you'll die.
La peine de mort. La peine de mort a-t-elle été abolie? La prison tue plus qu'à l'époque où il y avait la guillotine. On a vu ça dans la nuit de 7 au 8 octobre. Il y a un autre mort suspect en prison, le 77e suicide de l'année. Le suicide, comme il dit l'administration pénitentiaire. Ben, depuis le 7 octobre, on est déjà passé à le 80e mort suspect en prison pour 2011. En 2010, on est arrivé à 190 morts suspects en prison. Et ben voilà, la prison continue à tuer. Si ce n'est pas physiquement, c'est mentalement, émotionnellement, sexuellement, motoriquement, etc. Et ben voilà, du coup, autour de cette 17e mort suspect en prison, 77e, j'ai dit quoi ?
17e.
Ah, ok, 77e. Ben, du coup, voilà, c'est un jeune homme de 23 ans, il s'appelle Jamal Germaoui. Et le 30 septembre, il est placé au Mitar. Et le quartier disciplinaire de la maison d'arrêt de Nanterre, c'est dans la Parisienne, où il est enfermé depuis plusieurs mois pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Que se passe-t-il ensuite? Le 3 octobre, les pompiers amènent Jamal Germaoui dans un coma profond à l'hôpital de Nanterre. Il meurt sans être réveillé dans la nuit du 7 au 8 octobre. Il serait le 77e décès depuis le début de l'année dans les prisons françaises, selon le décompte des suicides et morts suspectes tenus à jour par l'association Banc Public. Suicide par pendaison, explique l'administration pénitentiaire. Selon elle, Jamal Germaoui a été placé au Mitar après avoir agressé un personnel de surveillance. Le jour de son évacuation vers l'hôpital, il avait comparu devant la commission de discipline de la prison. D'après le communiqué,
à l'énoncé de la sanction, la personne détenue a violemment réagi en se tapant à plusieurs reprises la tête contre le mur avant d'être maîtrisée par les personnels de surveillance. Ces agissements se sont déroulés devant témoins. La famille de l'intéressé a été avisée par le chef d'établissement peu après les faits.
Eh bien, bon. Alors, le prisonnier se serait jeté contre le mur, ce qui aurait provoqué sa propre mort. Ben, je pense que médicalement, c'est impossible d'avoir une telle force de se tuer en se jetant contre le mur. Et ben voilà, selon la version de l'administration pénitentiaire, les bons mecs du personnel de surveillance l'auraient sauvé, maîtrisé pour éviter le mort du jeune homme. Ben voilà, la famille du détenu, elle refuse ces explications. Photo à l'appui. Elle penche pour une altération violente avec les surveillants qui serait mal terminée. On va écouter maintenant des extraits, des interviews qui ont été faits devant la maison d'arrêt de Nanterre et devant la mairie aussi, je crois. En fait, voilà, il y a la petite amie, la grande sœur, les frères, les cousins qui parlent, et voilà. On va écouter un peu ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils pensent, comment réagir en face à une meurtre en prison, voilà, de leurs proches.
On va discuter un petit peu avec les proches de Jamal, donc qui est mort incarcéré il y a 2 semaines.
Alors si vous voulez peut-être commencer par vous présenter et peut-être commencer par raconter l'histoire du début, comment vous l'avez vécu.
Bah, moi je suis Sarah, je suis sa petite amie en fait depuis pas mal d'années. Comment je l'ai appris, c'est sa sœur qui m'a appelée dans les alentours de 18h. Or moi j'étais déjà à la maison d'arrêt depuis 14h30. Mon permis a été annulé en fait.
Ton permis de parloir.
Mon permis de visite, il a été annulé pour le motif. Le motif qu'ils m'ont donné, moi, le jour où j'ai été, c'est avoir fourni des produits stupéfiants à Jamel. Le vendredi 30 septembre, c'était le jour de son anniversaire. Donc moi, vendredi 30 septembre, je suis sortie, enfin, on ne m'a pas interpellée ni rien. Or, c'est quasiment impossible à Nanterre de ne pas se faire arrêter après avoir rentré des produits stupéfiants. Donc moi, lundi, j'avais parloir 3 fois par semaine, j'y allais les 3 fois par semaine. Donc j'avais parloir à 15h et lorsque j'y vais et que je me présente pour rentrer, le surveillant me dit que mon permis a été annulé. Donc je lui demande le motif, il me dit « ouais, moi je peux rien vous dire, vous allez recevoir une lettre par la poste ». Donc j'ai rien reçu, moi je suis restée là-bas de 14h30 à 17h, enfin un peu plus de 17h, pour savoir le motif, parce que j'avais pas de motif, moi on m'avait rien donné. Et donc c'est après que j'ai su que Jamal, il était, j'avais rentré des produits stupéfiants. Donc moi j'étais à la maison d'arrêt quand les pompiers, le SAMI, etc. est sorti. Donc sa sœur m'appelle et me dit que Jamal s'est suicidé. Elle m'a dit il était 18h. Moi j'ai vu, moi j'y étais donc de 14h30 à 18h. Moi, enfin 17h, on m'a rien dit. Donc moi je suis restée devant, les gens me regardaient droit dans les yeux, personne ne m'a rien dit. Donc j'ai été à l'hôpital et c'est là où j'ai appris qu'il était dans un coma cérébral, enfin qu'il était en mort cérébrale. Donc voilà, donc après la procédure elle a été lancée. Enfin Jamal était dans le coma donc.
Et donc on a pu avoir très vite, grâce on va dire à la directrice de la maison d'arrêt de Nanterre, d'avoir un permis de visite, mais seulement pour ma mère et moi, ce même jour. Donc on est parti le voir, juste ma mère et moi, mais pas Sarah, parce que Sarah, on lui avait annulé son permis. Le reste de mes frères, pareil. Le lendemain matin, quand on s'est présenté, on nous a dit que les permis étaient annulés. Donc, il fallait refaire une nouvelle demande de permis de visite. Donc, on a rappelé la directrice. Elle nous a dit que ce n'était pas elle qui avait demandé ça, puisque quand elle acceptait un permis, il était définitif et qu'elle l'annulait seulement s'il y avait un problème. Donc là, ce n'était pas normal que les permis étaient annulés. Donc, on nous a redonné un nouveau permis de visite, mais bon, ce qui a duré des heures. On a attendu quand même des heures devant la porte de la réanimation avant de pouvoir rentrer voir mon petit frère. Mon petit frère, il était en mort cérébrale et il portait des menottes au poignet. Les policiers, quand ils rentraient dans sa chambre, une des femmes policières rentrait avec un pistolet à la main, alors qu'il était en mort cérébrale. Donc même ça, pour nous, c'était incompréhensible. Et c'est vrai que nous, quand on l'a vu le premier soir avec ma mère, quand on est arrivé, tout de suite, on a été choqués par son état, parce qu'il avait un gros hématome. Enfin, c'était pas un hématome sur la tête, mais il était tout rouge sur la tête. Il avait une grosse trace rouge. Et quand on a regardé le cou, il n'y avait aucune trace au niveau du cou. Donc on a demandé au médecin, il s'est pendu, elle est où la trace sur le cou? Le médecin n'a pas su nous répondre.
Un médecin nous répond, je ne sais pas la cause de la mort, j'attends l'autopsie. Alors que la personne sort du mitard. Et que, soi-disant, la personne l'a décroché avec un kit antisocial, donc tu dois savoir directement. Maintenant, pour qu'un médecin bégaye devant une famille et le lendemain, comme par magie, les familles sont bloquées, c'est qu'il y a quelque chose derrière.
Et est-ce que vous avez eu des doutes immédiatement ou est-ce que...
Ah oui, il a des marques de ligotement au niveau des poignets qui sont très importantes. Il a des marques de traces de doigts au niveau du
de
cou.
De maintien.
Et au niveau des bras. Enfin, ouais. Imaginez-vous, ça, c'est une trace de doigts.
Qui...
Non. Ça, c'est ce que nous avons vu, parce que Jamal, on a pu le côtoyer pendant une semaine. Donc, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a constaté.
Une personne qui se suicide, il n'y a pas de souci, ça existe en prison. Mais quand un jeune homme, il a 23 ans, le vendredi où il va au prétoire pour aller au mitard, c'est son anniversaire. Un mec qui veut se suicider, il ne se suicide pas une semaine avant son appel.
Il passait le mardi 11 octobre.
Ne suicide pas quand il est à Nanterre, à 10 minutes de chez lui. Quand il y a tout le quartier qui est là-bas. Quand sa meuf vient le voir 3 fois par semaine au parloir. Quand il y a plein de gens qui l'assurent et qui l'aiment. C'est ça que je veux dire. C'est que tout ça, ils nous disent c'est un suicide. Il n'y a pas de souci. Ils vont nous le prouver par A plus B. Mais à nous de prouver tout le contraire. Nous, on a toutes les preuves. Maintenant, c'est à nous de bien les poser, les cartes. Parce qu'à chaque fois qu'on pose une carte, ils nous disent ah non. Comme toutes les affaires qu'il y a avant.
En fait, vous avez l'impression concrètement que toute l'administration pénitentiaire sur cette histoire vous met des bâtons dans les roues. Vous
pas
vous
seulement
totalement.
L'administration pénitentiaire, toute la justice entière.
Ils ont eu 2 semaines d'avance sur nous. Là, ils en ont 3. Ils nous font galérer à la contre-autopsie. La contre-expertise, excusez-moi.
Ouais, en tout cas, ils font bien leur travail, ça, dans ce sens-là.
Comme d'habitude, c'est les plus forts dans ce domaine-là.
Donc, voilà, il y a ce combat judiciaire qu'il va falloir mener avec toutes les forces que vous avez et qu'il y aura en présence. Ça, c'est sûr. Et on n'est pas au-dessus de ça. Mais déjà, il consiste en quoi un peu ce combat à travers aussi cette recherche de la vérité. Mais aussi, qu'est-ce qu'il y a autour? Qu'est-ce que vous allez faire autour?
Ce combat, c'est déjà en premier temps de laver l'honneur. D'avoir justice pour une fois, on n'a jamais demandé justice, là on demande justice pour la famille. Donc après, il y a des dizaines et des dizaines d'associations, j'oublie les noms, il y en a qui sont présents dans la pièce, etc., qui nous aident. Les mecs de Villiers, les mecs de Clichy-sous-Bois, ils sont concernés. Toutes les familles qui ont perdu un membre, ils sont là à nous parler, moi aussi, regardez quand. Donc tous les vices qu'ils nous ont fait, on les connaît déjà. On n'a pas attendu cette mort-là pour savoir tout ce qu'ils nous ont fait. Donc on sait comment arriver le plus vite maintenant pour accélérer le dossier et finir l'affaire en moins de 2 semaines et qu'il y a des gens qui tombent. Parce que tous les jours, il y a des mecs qui prennent des 10 ans. Regardez, il y a 3 jours, de 3 à 15 ans. Là, j'aimerais bien que la roue tourne un petit peu et qu'on voit des têtes tomber. Donc pour qu'il y ait des têtes qui tombent, il faut qu'il y ait des mecs, excusez-moi l'expression, qui prennent leur couille. Parce que quand des personnes ils se font acheter à l'intérieur, ils préfèrent « Ah ouais, c'est un suicide, ah ouais, tranquille. » Moi, je le connaissais, on le connaissait. C'est impossible. Même les gens qui le connaissaient pas, ils me disent c'est pas possible, il a des marques, parce qu'on a les photos. Quand on les met sur internet, on choque les gens, il n'y a pas de souci, c'est un truc qui se fait pas. Mais c'est pour montrer aux gens. On les amende, il faut qu'on choque. Quand vous voyez un truc comme quoi mort, suicide à Nanterre, vous lisez une fois, vous jetez le journal. Mais quand vous voyez une photo avec des traces au front de 3 cm, comme si une trace de matraque frontale au sol, ou une trace contre le mur, des hématomes sur les côtes, il se suicide, il n'y a pas de souci. Comment vous expliquer? Des hématomes sur les côtes. Comment vous expliquer des griffures de menottes ou de zip sur les poignets et sur les chevilles?
Moi, je vais vous lire la dernière phrase de l'autopsie. Il n'a pas été officiel.
Ouais, officiel, hein.
Il n'a pas été identifié de lésions pouvant correspondre à des violences ou à des actes de défense ou de lutte. Alors qu'il a des hématomes partout sur le corps.
Excusez-moi, d'après ce que je sais sur la police, tout ça, d'après moi, les gens ont les menottes par les poignets et non pas par les chevilles.
Ouais.
Donc je vois pas pourquoi il y a des traces de menottes sur ses chevilles.
En gros, quand même, votre combat aussi, il consiste à ce que tu disais, à briser l'isolement qu'il peut y avoir dans des quartiers disciplinaires, plus largement dans les prisons en France, en faisant en sorte que, comme tu dis, les gens ils prennent leurs couilles entre leurs mains.
Parce que je vous explique.
Et qu'ils témoignent, peut-être.
Je vous explique, ouais, exactement. Ouais. Moi, j'ai déjà eu des noms et prénoms de personnes qui vous avaient envie, des vrais bonhommes. Maintenant, ces gens-là, qu'est-ce qui va se passer comme d'habitude? Oh, écoutez, c'est un délinquant, c'est un mec qui fume de la drogue, il sort de prison. Comment vous voulez croire à ça? Mais s'il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui viennent et qui disent tous la même version carrée, c'est pas normal que, comme par magie, tous les matons, l'après-midi, ils ont été briefés, ils ont été convoqués. C'est pas normal si, c'est pas normal ça. C'est pas normal que des mecs au mitard, ils se font transférer. Parce que je pense que trois mecs au mitard étaient transférés.
Voilà, si tu peux expliquer un peu ce détail qui est quand même qui montre pas mal quand même l'état d'esprit de la paix et de l'administration.
Je
ne
pas trop en dire, mais là je suis obligé. Parce que quand je fais mes démarches, je vais à la prison de Nanterre toute l'après-midi et je parle à 30 personnes, je dis un discours. Excusez-moi mesdames et messieurs, j'ai un truc à vous dire. Si vous voulez pas m'écouter, il n'y a pas de souci. Maintenant, ils m'écoutent, ils rentrent en prison, ils vont dire le message à leurs frères, à leurs cousins, à leurs oncles, à tout ce que vous voulez. Ils reçoivent, ils me disent des choses. Il y a des choses où je prends pas en compte, des choses où je prends en compte. Je fais toutes ces démarches-là, mais quand au bout d'un moment, je vois que la personne dit une version, elle me dit tiens, mon mari va t'appeler, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et au bout de 3-4 jours, au bout de 3-4 parloirs, la personne, elle me dit mon mari veut plus que je te parle. Et si on lui dit demain, tu vas voir ta femme, tu vas voir ton bébé, et tu fermes ta gueule. Qu'est-ce qu'il va se dire? Le mec, il est enfermé 23 heures sur 24 au mitard.
Ça, on lui met des pressions, quoi.
Voilà, soit des pressions, soit des pressions, ou soit des négociations. C'est aussi simple que ça. Mm-hmm. Parce que si le mec, il va témoigner, il dit ouais, c'est faux, vous l'avez tué, ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qu'ils ont fait, toutes les personnes qui veulent nous voir, qui s'excusent, c'est pourquoi? Bah, toutes ces personnes-là, ils seront plus crédibles. Maintenant, c'est ce que j'essaie de prouver, d'avoir une justice pour mon meilleur ami, pour mon frère, pour que sa daronne repose, soit tranquille, sa copine, et sa sœur et tout l'entourage du quartier, qu'ils n'ont plus aucun doute, pour qu'après les gens, quand vont dire tiens, ce mec-là, ils ont réussi à avoir justice, on va les contacter. Comment ils ont fait? Bah, comment ils ont fait? Grâce aux gens de Nanterre, grâce aux gens de Clichy, grâce aux gens de Villiers, grâce aux gens de Paris, toutes ces personnes-là qui sont venues pour Jamal, ils nous ont aidés à avoir justice.
Parce que je sais pas, moi, un suicide, bizarrement, il s'est étranglé. Une fois qu'on a réussi à le récupérer, c'est bon. Normalement, on peut toujours le sauver. Là, bizarrement, c'est suite au coup qu'il a pris, il est mort. Donc nous, ce qu'on veut, c'est juste savoir la vérité. Et qui a fait ça? Pourquoi ils ont fait ça? C'est tout ce qu'on veut savoir. Voilà.
Donc là, ici, ce rassemblement était aussi pour ça. Comment ça se passe un petit peu au niveau... Est-ce qu'il y a du soutien un petit peu qui s'organise? C'est vrai que ça s'est passé récemment. Est-ce qu'il y a est-ce que ça s'organise au niveau du soutien?
Oui, ouais, bien sûr. Bien sûr, mais moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on en arrive là pour qu'il y ait du soutien, pas avant. C'est ça ce qui est dommage.
C'est-à-dire quand tu dis pas avant?
Pas avant, c'est-à-dire on a jamais été assez solidaires entre nous. Donc y a eu plein d'histoires comme ça auparavant. C'est-à-dire si il y avait déjà le soutien dès le départ et que ce soutien-là était resté, on n'en serait pas là aujourd'hui.
Tu veux dire par là qu'il y a une prise de conscience de ce qui se passe maintenant?
Oui, un peu, ouais.
Et est-ce que tu arrives à faire aussi le lien avec d'autres affaires qui se sont passées un petit peu partout ailleurs en banlieue, quoi?
Bah, il y en a eu beaucoup des exemples comme ça, mais le problème c'est qu'on n'en parle pas assez au niveau des médias. C'est toujours comme ça. À chaque fois l'affaire elle est étouffée, on n'en parle plus. Voilà, c'est terminé, on essaie de plier ça le plus rapidement possible, voilà, on n'en fait pas une polémique. C'est toujours ce qui s'est passé quand c'est des gens de couleur qui sont atteints par ces discriminations-là.
Pour toi, clairement, c'est une affaire discriminatoire, quoi.
Pour moi, il n'y a pas d'autre terme, mais moi je crois que ce que je vois. Donc là, ce que je suis en train de voir, c'est que tout le monde s'en fout. La personne, elle a des bleus partout, la personne est morte, et derrière, on nous raconte du baratin comme quoi il s'est suicidé. Attendez, même s'il est tombé dans des escaliers, je sais pas, ça serait vu, ils disent pas il s'est suicidé. Nous, ce qu'on veut, c'est des réponses. Qui a fait ça et pourquoi? C'est tout ce qu'on veut savoir. Et que ces gens-là, quand même, payent. Qu'ils soient pas transférés ailleurs comme ils ont l'habitude de le faire. Parce que la plupart du temps, quand il y a des histoires comme ça, c'est que ces personnes-là sont transférées ailleurs, ils sont butés, et puis voilà, ils continuent à vivre leur vie. Donc je vois pas pourquoi certains auraient le permis, entre guillemets, de tuer.
Tandis qu'ici, ben, les gens continuent à vivre avec leur deuil, avec leur douleur, quoi.
Oui, moi je vois ma tante dans quel état elle est. Son fils, il venait à peine d'avoir ses 23 ans. Il est plus jeune que moi. Il venait à peine de fêter ses 23 ans. Là, il attendait juste de sortir pour pouvoir se marier, pour faire comme tout le monde, avoir une vie normale. Et ben non, ils lui ont pas laissé cette occasion-là. Je sais pas comment être plus clair que ça. Je sais pas.
C'est arrivé des milliers de fois ces histoires-là et à chaque fois ils finissent par gagner. Enfin la justice, je parle de la justice. Donc l'idée c'est effectivement de se réunir, se rassembler pour pas oublier d'une part, pour qu'à un moment donné cette histoire elle se reproduise plus et pour ce qui est du contact, donc pour l'appel à témoins de ceux qui seraient soit à la maison d'arrêt de Nanterre, soit justement ceux qui auraient été au mitard et qui auraient été envoyés dans d'autres prisons. Alors il y a un mail, il y en a plusieurs, donc là pour l'instant on est en train de se constituer, je me rappelle plus très bien de l'adresse.
C'est Vérité et Justice pour Jamal,
Jamal, c'est D-J-A-M-A-L. Vérité et justice, tout attaché en minuscule pour Jamal. Jamal, D-J-A-M-A-L, @gmail.com. Sinon, il y a le site du Rire, enfin, il y a le mail du Rire Cupé. C'est rirecupé@gmail.com aussi.
Alors, on va laisser quand même une adresse postale, parce que on sait quand même pour les gens de l'intérieur, c'est difficile d'avoir accès à Internet. Donc, même si vous en avez pas, on peut dire que tout ici, chez FPP, voilà, donc le collectif Vérité et Justice pour Jamal, chez Fréquence Paris Pluriel, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris.
Moi, je lui explique comment ça se passe. Si un mec qui m'entend là, dans une prison et qui veut me voir, qui veut donner son nom et prénom et signer, faire un témoignage, pourquoi? Parce qu'il a connu par exemple son frère et il veut nous aider, il n'y a pas de souci. Il donne son nom à sa famille, je passe ça à mon avocat et vous inquiétez pas, il sera convoqué. Tout se sait en prison, vous inquiétez pas. Tu dis à ta mère ou à ta sœur, s'il te plaît, donne mon nom et prénom, quand tu vas te faire convoquer. Il n'y aura aucun souci.
Ça va sortir.
Au pire, on vous fera témoigner sous X comme à Villers-le-Bel.
Ou on espère pas en arriver là de notre côté. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est la parole de ceux qui étaient présents à ce moment-là est très importante pour cette affaire. Faites-le, c'est important.
Pour nous, la famille de Jamal, donc nous, on a eu le maire et son adjointe qui sont venus à la maison. Hein, et ils nous ont dit... que c'était à nous, les femmes de la maison, de sortir à l'extérieur pour aller voir des jeunes en leur disant qu'il fallait qu'ils se calment et qu'il fallait pas qu'ils foutent la merde alors que chez nous, il se passe rien du tout et que ma mère, elle a des grands enfants. Donc le plus petit, c'était Jamal, il avait 23 ans et ils l'ont tué et ils nous disent ensuite de sortir dans les rues pour calmer les jeunes alors que c'est pas du tout notre rôle et que justement, la veille, moi, c'est ce que j'ai dit justement au maire, que la veille, c'était lui qui avait envoyé plein de camions de policiers dans la cité qui n'ont pas arrêté de tourner et harceler donc, les jeunes du quartier. Et suite à ça, il y a eu 2 voitures de brûlées dans le quartier. Et c'est le maire qui a fait appel au préfet de Nanterre pour qu'il envoie justement des patrouilles alors qu'il ne se passait rien du tout dans le quartier.
Et comment vous expliquez que tous les jeunes... Ils savaient que la police tournait depuis un certain nombre de jours. Ils sont pas assez bêtes pour rentrer directement. Donc, ils préfèrent rester chez eux et attendre, à réfléchir, attendre le dossier, demander justice. C'est pour ça qu'il s'est rien passé au quartier du Lutte depuis la mort. Ce qu'il y a eu, c'est une poubelle brûlée, ils ont ramené 15 voitures. Maintenant, comment vous expliquez que des policiers vont voir les petits, on parle pas des grands, on parle des enfants de 13 à 15 ans, je baise ta mère à la Mecque. Si vous voulez la guerre, vous voulez pas la déclencher, c'est nous on va la déclencher. Mot pour mot, témoignage.
Là, tu cites un policier.
Je cite un policier qui est descendu contrôler des petits. Lors du contrôle, je baisse ta mère à la Mecque. Comment tu veux que les petits, ils réfléchissent ou ils pètent pas un câble? Donc après, le petit, il est parti en garde à vue. Non, c'est la routine, ça.
Bah oui, ils sont
mais je dis juste aux gens.
J'ai rébellion et je pense...
La routine.
Raison, Mounir. Et à Nanterre, ils ont fait exactement... Il y a 2 trucs sur lesquels je voulais vraiment revenir. C'est... D'une part, comment parce que l'interview de Hariba, elle est géniale, c'est parce que c'est comment on utilise les mères de famille en leur disant « Vous allez faire notre travail, on vous donne pas d'explication, mais vous allez faire notre travail, parce que si il y a des émeutes, c'est parce que vous êtes des mères indignes, c'est parce que vous êtes des familles indignes et que vous ne savez pas tenir vos enfants. » Et ça, c'est insupportable. Le deuxième truc que je voulais dire, surtout, c'est comment il y a des provocations policières. Pour eux, il n'y a que 2 schémas possibles dans un quartier. Soit c'est des émeutes et ils poussent à l'émeute, soit on ferme notre gueule, soit il faut la fermer. Et les provocations policières, c'était exactement ça à Nanterre. Ils allaient voir les jeunes du quartier, ils faisaient semblant de pleurer, ils leur disaient « Ah bah alors, il est parti, ils ont sorti... Il y en a un qui a sorti son pénis devant une mère de faim. » Bref, c'est que des histoires comme ça. Et ils vont pour provoquer les jeunes pour qu'ils fassent n'importe quoi. Et parce qu'ils savent très bien quand ils font n'importe quoi. Moi, je suis pas contre la violence ou quoi que ce soit. Hein. C'est pas du tout ça, mon discours. Juste que comme c'est pas organisé, et si c'est pour qu'il y ait plein de gens qui passent en comparution immédiate, qui prennent des 15 ans ferme ou des trucs comme ça, on n'est pas suffisamment solide. Les...
Si on se réunit tous et on parle d'une seule voix, ils vont avoir peur. Pourquoi? Parce que l'union fait la force, tout simplement.
Et pour répondre à ta question, en fait, et pour passer à un côté un peu plus positif d'engagement, Ce qui est intéressant, c'est si on s'est rencontrés là, c'est une coïncidence géographique. Le tribunal, la cour d'assises pour Villiers-les-Belles, elle était à Nanterre. Il y a le collectif anti-répression de Nanterre qui est venu suivre le tribunal, et au même moment, Jamal est mort. Et ça, ça doit être une base pour lutter ensemble contre, ce sont les mêmes logiques à chaque fois, différemment, répression de la police, répression à l'intérieur par les matons en tôle, couverture par les médias et la justice. Et c'est ensemble qu'on doit se battre contre cette alliance de l'autre côté.
Moi, j'aimerais bien qu'au final, on trouve justice et que mon pote, l'Hmo, soit un symbole pour une justice. Maintenant, je comprends pas pourquoi, depuis 86, c'est le dernier policier qui a été condamné. On parle bien d'un policier qui a été condamné en 86, il a pris 7 piges. Pourquoi ? Parce qu'il a mis une balle dans la tête à un jeune. Il a mis une balle dans la tête à un jeune. Les mecs de Villiers-le-Bel, ils ont tiré de rage sur des... pas des fonctionnaires, sur du matériel, ils ont pris 15 ans. Vous voyez ou pas un petit peu là, sur la balance, quoi, ce que ça donne ? Depuis 86.
Moi, j'aimerais seulement faire passer un message aux familles. Ce qui est arrivé à Jamel le 3 octobre peut arriver à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, voilà, faites quelque chose si vous savez quelque chose. Merci.
Sing it up, mister! Hey, voilà, c'est ça, yeah! Yeah. Get your hands in the air, sir. Woo. Yeah. And you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah.
What they done to me, they was wrong. Listen to me one more time. They were wrong. Oh yeah, give it to me one time. Give it to me two times. Give it to me three times. Yeah. Give it to me four times.
Chaîne, toujours sur Radio Galère 88.4. Oh. Mais bon, voilà un petit reggae pour quoi? Je sais pas. Pour calmer le jeu? J'espère pas, non. Bon, et ben voilà, on a bien vu, voilà Nanterre, c'est tout le même côté de Villiers-le-Bel et Clichy-sur-Bois et compagnie. Du coup, voilà, ils ont bien d'expérience avec la perte des jeunes assassinés par la police ou par des matons. Et du coup, voilà, c'est aussi à se rappeler que ce n'est pas seulement la justice ou l'administration pénitentiaire, mais aussi la complicité des prisonniers au système pénitentiaire, ces mecs qui font le témoin en faveur des autorités, ou les prisonniers qui tiennent le silence pour finir avec un bon rapport de conduite, être un prisonnier modèle. Oui, je veux bien rappeler que vous pouvez écrire sur Vérité et Justice pour Jamal. Jamal, D-J-A-M-A-L, Vérité et Justice pour Jamal @gmail.com, ou sinon pour toutes les personnes qui n'ont pas accès à l'ordi, à l'internet, par poste, c'est Vérité et Justice pour Jamal chez Radio FPP, et c'est 1er rue de la Solidarité.
Un rue de la Solidarité, 75 019 Paris.
Et voilà.
Et pour revenir sur ND Chaîne et sur Marseille, vous pouvez, à vous qui nous entendez à l'intérieur, nous écrire à Radio Galère ND Chaîne, 41 rue Jobin, 13003 Marseille. On est en attente de vos lettres, de vos coups de gueule et de vous entendre, quoi, de vous faire entendre. Nous, on est là pour faire du lien entre vous et nous, dedans, dehors.
Ouais, parce que même si c'est pas toujours très gai, ces émissions anticarcérales, le but, c'est quand même de relayer les luttes. Et parce que nous, on pense que c'est important de faire ça.
Pas que ça nous rende triste.
Parce que voilà, on voudrait bien vous énerver plutôt que vous rendre triste, si c'était possible. Et puis vous et nous, parce que dans la même occasion. Et du coup, si on pouvait se rendre un peu en colère les uns les autres, ce serait cool, quoi.
Vénère.
Voilà. Voilà, il y a des gens. On est vachement vénère, en fait. On n'a pas l'air comme ça, mais ouais. Vénère.
Il y a des gens qui pourrissent dans les guéoles, et nous tous pourrissons. Oh.
Dans ce monde de merde.
Force, courage et détermination.
Non, parce que la prison, elle fait partie de ce monde-là. Elle n'est pas juste un truc en dehors, quoi. Elle fait vraiment partie de ce monde-là. Et que le but, c'est d'articuler les choses entre elles. La prison avec le reste de ce monde de merde. Et voilà, ça fait partie de tout ça. Et c'est ça qui fait tenir. Et c'est ça qu'on veut détruire.
Et pour prendre la suite de ce que tu viens de dire, je vais vous lire la fin d'un communiqué prisonnier du bâtiment MA2 de la maison d'arrêt du Mans qui était en lutte en mars dernier, qui finit comme ça. La prison est cet outil de gestion des chômeurs, cet outil de gestion de la peur, cette confiscation de vos liens par la police, de votre responsabilité par la justice, ce laboratoire de la surveillance et du contrôle. Elle est ce verrou qui vous enferme par sa menace. Or ce verrou, si incassable dans notre situation, il vous est vulnérable. Brisez-le, faites-le sauter.
Devenu une pure vision de l'esprit.
Je nourris des perspectives, nuances.